Moi, je ne suis pas pressé, donc si vous voulez, vous pouvez encore venir et me déloger pour quelques minutes. Ce n'est pas un problème du tout. Ça va? Ça va? Oui? Là-bas aussi? Oui? Comme ça? Enlever le manche. Voilà, j'avais ramené quelque chose, je ne suis pas sûr d'en avoir totalement besoin. Alors, si vous voyez des frères et des sœurs qui partent avant la fin du message, surtout, vous ne les suivez pas. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils sont en colère contre moi, ça ne veut pas dire que c'est absolument inaudible.
Paul doit partir quand même. Paul partir.
Qui doit...
Paul doit partir, mais ce ne sera pas de ta faute.
D'accord. Donc, si jamais vous voyez, surtout vous les suivez pas. Hein. Alors ils m'ont bien dit, oui, on n'est pas en colère, tout ça. C'est pas parce que c'est catastrophique. Mais... Voilà. Alors, j'aimerais vous emmener ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Alors, comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de tact. Je vais faire l'étude sur les Corinthiens maintenant. Puis comme ça, Alex aura pu à la faire mardi. Vous n'aurez pas besoin de venir mardi, ce sera fait. Voilà, donc ça va être tout. Vous n'avez pas besoin de vous déranger mardi. Tout sera fait ce matin. Voilà. Donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous lirons à partir du chapitre 1, verset 10. Et on va avancer. Attendez, quoique là, je pars un peu trop loin. Oui, non, c'est à partir de beaucoup trop loin. Alors, on va partir du chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1. À partir du verset 26, et on l'avancera dans le chapitre 2. Donc, je ne sais pas si tout le monde est là. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26, et jusque dans le chapitre 2. Puis on peut prier. Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de toi face à la persécution, face aux difficultés, et même face à l'étude de ta parole, Seigneur, pour bien la comprendre, pour ne pas nous tromper, pour ne pas nous égarer, pour ne pas nous fourvoyer. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes cela ce matin, pour que nous ayons une juste vision de toi, Seigneur, et de ton œuvre et de ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 26. Donc Paul écrit ici à, je crois que vous devez le savoir, Paul a écrit ses lettres à différentes communautés chrétiennes naissantes au premier siècle de notre ère. Et ici, il écrit à des chrétiens qui vivent dans une ville qui s'appelle Corinthe, et une ville qui avait, dans le monde antique, semble-t-il, une mauvaise réputation. Une réputation de notre sœur nous disait la France c'est mondain. Ah ouais. C'est vrai hein. Si on regarde les médias on a l'impression que la Jamaïque c'est aussi mondain que la France mais en fait c'est pas vrai, la France c'est très mondain et Corinthe avait un peu cette réputation dans le monde antique d'être une cité vraiment profondément pervertie. Ce n'est pas la cité de la philosophie, Athènes, quoi qu'il y avait aussi des perversions là-bas, mais il semble qu'il y avait une réputation, une mauvaise réputation Corinthe. C'était un port avec beaucoup de personnes qui passaient, qui étaient de passage. Et l'apôtre Paul a implanté une église dans cette cité Et quelque temps après, eh bien, il a entendu qu'il y avait, j'ai envie de dire que c'était la catastrophe, ou presque, qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Et donc, il leur a envoyé plusieurs lettres. Et on a ici la première lettre qu'il leur a envoyée. Et donc, nous allons lire à partir du verset 26. Chapitre 1, verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, j'aimerais ce matin, en tout cas c'était mon désir au départ, parler surtout du verset où Paul, verset 15, il parle de l'homme spirituel. Et je sais que ça a été la réflexion de certains chrétiens, et en particulier un chrétien chinois, Watchman Nee, ceux qui connaissent, qui a écrit un livre sur l'homme spirituel. Qu'est-ce que l'homme spirituel? Et c'est sûrement très intéressant, mais je crois quand même important de reposer certaines choses, parce que tout le monde ne va pas être à l'étude biblique d'Alex. Et parce que c'est important, je crois, de remettre certaines choses de remettre un peu de contexte et de redire certaines autres choses sur cette épître. Tout d'abord, j'aimerais dire que Dieu s'intéresse à des individus. Et ça m'a beaucoup frappé en préparant ce message, que Dieu s'intéresse à l'être humain. Il s'intéresse à vous, à moi, à nos expériences, à nos manques d'expérience. Il s'intéresse à cet homme en Iran, ce chrétien dont nous avons parlé, mais il s'intéresse aussi à ses persécuteurs. Et c'est incroyable, mais Dieu s'intéresse à l'homme et à son parcours, à ce qu'il est, à ce qu'il croit, à ce qu'il ne croit pas. Il s'intéresse à lui dans toute sa dimension. Et ça m'a beaucoup frappé en préparant un peu ce message, à quel point dans la Bible, Dieu s'intéresse à des individus. Vous savez, Dieu aurait pu nous donner une série de formules, une série de dictons ou de proverbes, et il l'a fait, il y a le livre des proverbes dans la Bible. Il aurait pu nous donner juste des prières à réciter ou à apprendre, et il l'a fait de bien des manières dans les psaumes, quoi qu'elles soient là pour nous inspirer, on peut les apprendre, mais Dieu aurait pu nous donner un manuel de philosophie. Vous avez sûrement tous lu un peu de philosophie, au moins peut-être 10 ou 15 lignes, assez pour vous dire que vous ne voulez pas en lire plus. Il aurait pu nous donner toutes ces pensées abstraites, ces réflexions. Platon, Aristote, même si je n'ai quasiment jamais lu. Kant, tout ça, c'est plein de réflexions très, très abstraites. Il aurait pu nous donner un livre de théologie. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà ouvert un livre de théologie, plein de réflexions. Est-ce que Dieu est omniscient? Est-ce qu'il a prédestiné? De quelle manière il a prédestiné? Est-ce que le baptême, comment ça doit être fait? Les attributs de Dieu, les deux natures de Jésus-Christ, comment elles se joignent, etc. Beaucoup de réflexions. Mais Dieu nous a donné un livre qui est rempli d'individus et d'expériences individuelles. Et je crois que si je vous demandais là de tourner les pages de votre Bible et d'aller dans les évangiles, chacun dans un texte des évangiles, alors peut-être certains d'entre nous on tomberait sur un discours de Christ, sur des paroles de Christ, mais on tomberait sur beaucoup de personnes individuelles, d'hommes, de femmes, et même d'enfants, même si c'est plus difficile à percevoir, une veuve, un homme riche, un jeune homme riche, un fils prodigue, Lazare, Marie, Marie de Magdala, un démoniaque. Et la Bible est remplie d'expériences individuelles et d'individus. Et je crois que c'est bien ça qui nous prouve que Dieu s'intéresse à des individus, il s'intéresse à nous et il s'intéresse à nos expériences personnelles. Et je crois que Dieu s'intéresse à notre spiritualité. Vous allez me dire, ah bon, ben, ma spiritualité, elle doit être exactement comme celle du voisin et celle du frère. Non, et oui, oui et non. Non, Dieu s'intéresse à notre parcours et à la manière dont nous allons venir à Christ et dont nous allons grandir en Christ. Et ça n'est pas forcément exactement la même chose que celle du voisin. Ah, nous avons un même but. Le but de Dieu, c'est que nous grandissions à l'image de son Fils. Ah, il n'y a pas 36 buts. Il y a un seul Dieu qui a donné un seul Christ, qui a été crucifié une seule fois, qui est ressuscité une seule fois, qui va revenir une seule fois. Mais il y a différentes personnes qui sont attirées par ce seul et même Christ. Et si nous avons des gens à Corinthe, Paul, il leur dit, Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre, est quelqu'un de très différent, mais alors de vraiment, vraiment, vraiment très différent de ces Corinthiens à qui il écrit. Il est un juif, et en plus il est un pharisien, d'accord ? Donc c'est quelqu'un qui vient d'un monde vraiment profondément, totalement différent que ces Corinthiens, qui sont des Grecs, probablement on voit ici qu'ils ont baigné dans l'idolâtrie, etc. Il y a sûrement beaucoup plus de différences entre Paul, le juif pharisien, et ces Grecs corinthiens, qu'entre moi et la sœur qui vient de la Jamaïque, ou qu'entre un Français et un Américain. Vraiment beaucoup, beaucoup de différences. Et pourtant, Paul nous dit dans cet épître aux Corinthiens, eh bien, qu'il y a la même grâce de Dieu, qu'il y a le même esprit de Dieu, qui a le même but de Dieu, qui a le même salut. Et dans cet épître, Paul va très clairement dire que lui, il s'est fait tout à tout, c'est qu'avec les Juifs, il a été comme Juif, avec les Grecs, il a été comme Grec, il s'est adapté à la personne. Ce n'est pas qu'il a adapté son message, ce n'est pas qu'il a dit qu'il y avait un message différent pour les Grecs et pour les Juifs, mais il s'est adapter vraiment lui aux personnes. Est-ce qu'il a adapté son message? Ce n'est pas ce que je voudrais dire dans un sens qu'il l'aurait modifié. Mais en tout cas, on voit bien, si on lit l'épître aux Corinthiens, que ce n'est pas exactement la même chose que quand Jacques écrit son épître, l'épître de Jacques. C'est le même message, mais c'est pris peut-être par des bouts différents. Et Dieu ne va pas convaincre un juif d'avoir des idoles ou de rendre un culte à Athéna. Et il ne va pas convaincre un grec d'avoir des traditions judaïques. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous lisez l'épître de Jacques, vous allez voir très clairement que là, Jacques s'adressait à des personnes d'arrière-plan judaïque qui étaient assez légalistes, qui jugeaient facilement les autres et qui étaient probablement aussi même des gens qui étaient assez riches pour certains, des commerçants, etc. Et donc Jacques traite de leurs problèmes. Et ici, Paul traite des problèmes des Corinthiens qui ne sont pas exactement les mêmes. Ces Corinthiens, ils n'avaient pas tout un arrière-plan juif, ils n'étaient pas des légalistes, au contraire, ils étaient profondément remplis de péchés qu'on appellerait les péchés de la chair. Problème d'adultère, problème d'idolâtrie, problème d'immoralité, probablement d'homosexualité aussi. Rivalité, bon, ça y en avait aussi ailleurs. Mais donc Paul s'occupe de ces problèmes. Il s'occupe de ces problèmes. Et un des problèmes chez ces Corinthiens, eh bien, c'est qu'ils étaient, alors j'hésite entre dire qu'ils avaient abandonné l'Évangile ou qu'ils étaient en train d'abandonner l'Évangile. En tout cas, ils étaient en train de compliquer certaines choses et ils avaient oublié que le centre de l'Évangile, eh bien, c'est la prédication de la croix de Jésus-Christ. Et Paul va les ramener à la croix de Christ et, parce que c'est de là que tout part. J'aurais presque tendance aussi que c'est là que tout doit aboutir. Dieu nous appelle à ressembler à Christ, à ressembler à Dieu dans l'amour qu'il a manifesté en Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Et Dieu nous invite à avoir Christ comme modèle dans sa résurrection, mais aussi dans sa crucifixion. Dieu était en Christ et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ces Corinthiens étaient en train d'oublier ces choses. Alors, très rapidement, vous allez me dire, oui, c'est pas bien. Moi, à sa place, j'aurais pas oublié ces choses si rapidement. Et c'est probablement vrai que nous ne les aurions pas oubliées si rapidement. Une des raisons, bien, c'est que nos églises ont probablement aujourd'hui plus de maturité. Ou peut-être plus de cadre qui nous empêche de dévier. Et surtout que ces Corinthiens, ils n'avaient pas la possibilité. Ils n'avaient pas chacun leur Bible. Déjà, il y en avait beaucoup qui étaient des illettrés. Ils n'avaient pas tout l'Ancien Testament. Nous, on a tout l'Ancien Testament. Chacun chez soi. On l'a même plusieurs fois, probablement. Ils n'avaient pas tout le Nouveau Testament. Peut-être d'ailleurs qu'ils n'avaient rien du Nouveau Testament. Paul est venu chez eux. Il leur a prêché l'Évangile. Il leur a expliqué l'Évangile. Après, il est parti. N'a aucune preuve qu'ils avaient rien d'autre que ce que Paul leur avait communiqué oralement. Donc c'était, à partir de là, très facile quand même de dévier, surtout quand il y avait des personnes qui venaient leur dire « Oh là là, mais vous savez, l'apôtre Paul, il est gentil, l'apôtre Paul, vous savez, il n'est pas vraiment apôtre de Jésus-Christ, nous on va vous expliquer mieux. » Ça nous arrivait, probablement, on aurait fait un peu comme les Corinthiens. Maintenant, on a plus d'expérience derrière nous. On a des Bibles, on a toutes sortes de choses. Mais donc, ces chrétiens ont dévié très rapidement. Et quelque part, même si ce n'est pas un exemple à suivre, ça ne doit pas nous étonner trop non plus. Une autre chose que je trouve intéressante, au verset 3 du chapitre 2, quand Paul explique, il leur explique qu'il leur a annoncé l'évangile, et il dit, moi-même, il se décrit lui-même quand il leur a annoncé l'évangile, il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et la vie de l'apôtre Paul, finalement, il nous parle beaucoup de sa vie dans cet épître. Eh bien, sa vie n'était pas un long fleuve tranquille. Et il y avait des moments où ça allait mal, où c'était dur, où il souffrait, où je crois que c'était vraiment très difficile. Et donc, l'apôtre Paul, qui est un modèle de spiritualité, eh bien, il a connu ses états de faiblesse, de crainte. Il a été dans la crainte, hein, il nous le dit très clairement, et de grands tremblements. Et malgré tout, il a prêché l'évangile à ses Corinthiens. Et il nous dit, ma parole et ma prédication, chapitre 2, verset 4, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. On ne sait pas exactement, en lisant cette épître, ce qui est arrivé aux Corinthiens. On ne sait pas en détail ce qui leur est arrivé après que Paul soit parti. Mais au vu de ce que Paul nous dit par rapport à la sagesse, il est tout à fait possible que cette église ait un peu été dans différentes directions, que certains aient voulu compléter l'évangile par la sagesse grecque, ça manquait pas de sages, de philosophes. Et il est aussi très clair qu'ils ont été influencés par, euh, par des prédicateurs, cette fois d'origine juive. Et on peut voir ça dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Je vais me tromper peut-être. Donc, 2 Corinthiens, la deuxième épître, au chapitre 11, qui a été écrite peu de temps après. De Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3. Il dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Or, j'estime, c'est Paul qui parle ici, que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards. Et plus loin, dans ce chapitre, au verset 22, Paul parle des gens qui ont enseigner des choses supplémentaires aux Corinthiens. Il dit, sont-ils hébreux, moi aussi, sont-ils israélites, moi aussi, sont-ils de la postérité d'Abraham, moi aussi, etc. Et donc, il semble qu'il y a eu plusieurs influences à Corinthe qui sont venues détourner les Corinthiens de l'Évangile. Il y a probablement eu une influence grecque et peut-être après ou en même temps une influence judaïque. Et dans tout ça, par rapport à toutes ces influences, eh bien, Paul essaye de recadrer ces chrétiens en les faisant regarder vers Christ. Et donc, il parle de la puissance de Dieu qui a touché le cœur de ces Corinthiens. Il dit, ben oui, voilà, votre foi, elle a été fondée sur la puissance de Dieu. Et il y a une puissance de conviction dans l'Évangile, quand il est prêché, qui fait qu'on reconnaît que c'est vraiment ce dont on a besoin, que c'est ce qui nous satisfait, ce qui nous remplit, qui est quelque chose que nous n'avons pas connu ailleurs. Et c'est là-dessus, en grande partie, qui est fondée à l'Évangile. L'Évangile se fonde sur la puissance de Dieu, sur l'intervention du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme, d'une femme, et qu'il fait qu'il vit quelque chose qu'il n'a jamais vécu par ailleurs. Une plénitude, la présence de Dieu, quelque chose qui l'inonde, qui le remplit, qui change sa vie. Change sa vie. Mais Paul ajoute, oui, il y a cette démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc il dit, nous, notre prédication, elle ne repose pas sur la sagesse des hommes, la sagesse des Grecs, Platon, Aristote ou autre, que sais-je. Elle repose sur la puissance de Dieu et vous avez été touchés par cette puissance. Puis il ajoute, verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc Paul leur dit, oui, c'est pas sur un discours qu'est fondée votre foi. Elle est fondée sur une puissance qui vous a transformé, la puissance de Dieu qui vous a transformé.
elle n'est pas fondée sur ce que les hommes peuvent dire de Dieu par leur propre force. Non, elle n'est pas fondée là-dessus. Mais il dit cependant, il y a aussi une pensée, il y a aussi un discours chrétien, il y a aussi une logique chrétienne, mais qui vient directement de Dieu. Vous n'allez pas la trouver dans aucun livre de philosophie de la Grèce. Vous n'allez pas la trouver chez les pharisiens ou chez les rabbis du judaïsme. Non, c'est une sagesse qui vient de Dieu directement et qui est révélée par l'Esprit de Dieu. Et cette sagesse, bien, c'est simplement c'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Et vous allez me dire, c'est rien du tout. Ben si, c'est quelque chose. Pour le monde, c'est rien du tout. Dieu a tant aimé le monde, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas des grands discours très philosophiques. Et pourtant, c'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça qui est au cœur de l'Évangile, que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce qu'il y a d'incroyable, bien, c'est que ce message a triomphé de tous les autres messages. Il a triomphé de la Grèce, il a triomphé de Rome, et Dieu a fait en sorte que ce message devienne le message le plus important du monde. Pourquoi est-ce que nous avons des croix dans tous les cimetières de notre pays, même si je sais que maintenant ça change un peu? Bien parce que Dieu a fait triompher ce message de la croix. C'est vrai que les gens qui ont mis ces croix ne comprenaient pas toujours ce qu'ils faisaient, et c'est ça qui est incroyable. Même s'ils ne comprenaient pas toujours ce qu'ils faisaient, Dieu a fait en sorte que ce soit ce message de la croix qui triomphe. Platon, Aristote, Socrate ou autre. On n'a pas dans tous les cimetières du monde dédiés à Socrate, qui est mon espérance par-delà la mort, ou à Platon. Peut-être vous allez trouver. Mais non, ce qui a triomphé dans le monde, c'est ce message de la croix, la sagesse de Dieu. Et qui aurait pu dire, quand Paul a mis les pieds dans cette ville de Corinthe, eh bien, que ce message allait être le message qui allait changer le monde. Je crois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui auraient pu dire ça. Ils auraient dit, oui, non, ce truc-là, ça va disparaître. Et le message de l'Évangile n'a pas disparu, mais il a triomphé de tout autre message. Vous allez me dire, oui, c'est pas vrai, hein. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas vrai. Bien si, l'Évangile a triomphé. Et dans notre siècle, ou plutôt dans le siècle qui vient de s'écouler, ce message de l'Évangile, il a triomphé du nazisme. Qui aujourd'hui se réclame encore du nazisme? Vous allez en trouver, peut-être, mais pas beaucoup de personnes, heureusement. Il a triomphé du communisme. Oui, le communisme existe encore, en Corée du Nord, en Chine, c'est vrai, mais même eux, ils sont en train de passer à autre chose. Mais l'Évangile a triomphé de ces choses. Et il va continuer à triompher de ces choses. Et donc ça, c'est le message de Dieu. Et en continuant notre lecture, verset 14, 1 Corinthiens 2, 14, Paul dit, mais l'homme animal, l'homme dans son état naturel, je ne crois pas qu'il parle ici de... c'est pas que Paul tout d'un coup a embrayé sur le darwinisme. Il dit, l'homme animal, l'homme dans son état naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cette idée que Dieu s'est fait homme, Et il a été crucifié pour nous, pour nos péchés. C'est une folie pour le monde. Il dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça ne doit pas rentrer ni dans les manuels de philosophie, ni dans les manuels scolaires. Et pourtant, ce message, il est encore là et il est encore pertinent aujourd'hui. Mais l'homme naturel ne reçoit pas ces choses. Et Paul continue. Mais c'est spirituellement qu'on en juge. Et après, il dit l'homme spirituel. Et ça, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Et c'est formidable car l'évangile est une puissance, mais l'évangile est aussi une pensée qui a Jésus-Christ en son centre et qui nous fait voir toutes les choses autour de nous différemment, qui nous fait voir le monde différemment. Et Paul écrira à Timothée, bien nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse qui nous rend aimants mais aussi réfléchis. Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous êtes en train de périr ce matin? Est-ce que vous périssez? Vous reconnaissez que vous êtes en train de périr? Je suis en train de périr et j'arrive pas à me défaire du péché. Je n'arrive pas à me défaire du mal. Je n'arrive pas à venir à Christ. Je n'arrive pas à venir à lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu ne veut pas que nous périssions. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'éternité sans lui. Encore à nous demander ce que nous avons fait de notre vie et ce que nous faisons là en ne comprenant pas ce qui s'est passé. Il veut que nous comprenions son regard sur le monde. Et son regard sur le monde, c'est Jésus-Christ. C'est à lui qu'il veut que nous venions. Et c'est à lui qu'il veut que les hommes et les femmes ressemblent, qu'ils veulent qu'ils adhèrent à lui, qu'ils adhèrent à ce plan. Et c'est ainsi que l'être humain devient vraiment être humain et qu'il cesse de périr, qu'il cesse de raisonner, mais de raisonner en oubliant ce qui est le plus important.